1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich will keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD, salut Ghislain.
Salut Philippe, comment ça va?
Bah c'est à toi qu'il faut le demander.
Bah écoute, ça va mieux.
Ça va mieux?
Oui, après avoir subi une attaque massive d'allergie.
Aïe aïe aïe.
Et ouais, ça va mieux.
Les temps sont durs.
Oh, à qui tu le dis?
Masculinité, on n'a pas épuisé le sujet, alors on y revient.
Ouais.
C'est toi qui prends la main?
Oui, oui, oui. Ben voilà, on va continuer à explorer ça. Moi, en fait, ma source, elle est très simple. C'est une émission de la télévision suisse qui nous parle de masculinité et qui explore, en fait, avec des scientifiques, des psychiatres, okay, des sociologues, des psychosociologues, etc.
D'accord.
Qui explore, en fait, la masculinité sous plein d'entrées différentes. Alors moi, j'ai piqué quelques petits extraits.
D'accord.
Il y a beaucoup d'autres choses dans cette émission, parce qu'elle dure plus d'une heure.
Ça se trouve facilement.
Sur YouTube, facilement.
Donc, c'est une émission de la RTS Radio, ouais, Télévision Suisse. Ils font des très bons trucs, en fait.
Ben voilà. Et donc, je te propose, en fait, qu'on parte du début, de la base, c'est-à-dire du chromosome.
Très bien.
Allez.
Ces caractéristiques masculines, c'est ce qui se très tôt. In utero. Les hormones influencent le développement du cerveau, la testostérone, l'hormone masculine en l'occurrence. Comment un être qui pourrait devenir un homme finit par le devenir? Les hommes sont-ils vraiment le sexe fort? Ces questions sont au centre des travaux du biologiste et chercheur en neurologie Gerald Hutter.
La véritable différence entre un homme et une femme sont les chromosomes. Les hommes ont deux différents chromosomes XY et la femme a deux mêmes chromosomes XX. Et ça, c'est significatif. Le chromosome X est très riche, il contient beaucoup d'informations et il est beaucoup plus grand en comparaison du chromosome Y qui est si petit et qui contient peu d'informations. En fait, l'information dans un chromosome Y est là pour freiner le développement des ovaires et donner la possibilité de développer les parties masculines.
Und stattdessen männliche Gonadenentwicklung zu ermöglichen. Wenn eine Frau oder ein Mädchen,
si une femme ou une fille ou un embryon féminin rencontre un problème dans les cellules et cette cellule en question n'est pas bien lisible par le chromosome X, la cellule peut donc utiliser l'autre chromosome X pour se développer.
Kann diese Zelle das andere X-Chromosome abrufen.
La raison pour laquelle les hommes cherchent un enracinement et une reconnaissance à l'extérieur d'eux-mêmes a à voir justement avec la fragilité constitutionnelle due au chromosome XY. Si je ne suis pas stable à l'intérieur, j'ai d'autant plus besoin de me raccrocher à quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle des jeunes garçons développent une affinité pour des choses grandes et fortes. Moi, j'aime comparer ça avec un orchestre. Les filles et les garçons ont les mêmes conditions, les mêmes nombres de violons, de percussions ou de trompettes. Mais le cerveau masculin, sous l'influence de la testostérone, va réorganiser le placement de ses instruments dans l'espace. Les percussions et les trompettes en avant, les violons en arrière, Et cela aide ces jeunes hommes à s'orienter et à cacher une fragilité en mettant en avant les trompettes et les percussions.
Donc en fait, on serait des petites choses fragiles.
C'est ce que tu conclus de ce qu'on vient d'entendre. J'ai à peu près la même conclusion. Maintenant, bon, c'est un point de vue très scientifique. C'est un biologiste qui parle.
C'est un biologiste,
c'est
oui.
Ok. C'est intéressant. Alors déjà, ça déconstruit un certain nombre de choses, effectivement, par rapport à ce qu'on évoquait à l'instant, le sexe fort est-il vraiment le sexe fort à l'entendre,
pas forcément. C'est pas, et puis surtout, est-ce qu'au départ, on ne serait pas tous des femmes?
Oui, exactement.
D'après ce qu'il dit, le chromosome Y vient en fait freiner le développement des ovaires, etc. Est-ce que c'est...
Donc, oui, en fait, on peut l'entendre comme ça. Ce n'est pas qu'une explication qui dissocie vraiment... le masculin du féminin, puisqu'au départ, on baigne d'une certaine façon dans la même purée primordiale, on va dire.
je ne ferai pas de commentaire sur la purée primordiale.
Ok.
Voilà, donc en fait, je trouvais ça super intéressant, ce petit extrait qui part vraiment de la biologie, la constitution, en fait, pour expliquer certains comportements, certaines affinités. En fait, et du coup certains, on va dire certaines mises en scène, hein. Et en fait après ils ont fait une expérience où ils ont essayé de mesurer la force des hommes,
la force physique,
c'est-à-dire ils leur ont demandé en fait de serrer très fort quelque chose. Et il y avait un niveau de force qui correspondait à un niveau de force féminin, qui était plutôt dans ce qui est le plus faible, et un niveau de force qui était plutôt masculin dans les niveaux les plus hauts.
Ok. Alors, c'est des normes qui...
C'est des normes qu'ils avaient décidées comme ça, parce qu'en fait, l'expérience est complètement biaisée. C'est-à-dire qu'à certains hommes, ils ont dit « Ah oui, ok, vous êtes plutôt dans la partie haute de la force, plutôt masculin. » Et puis à certains, ils ont dit « Vous êtes plutôt en bas, côté féminin. » Donc les gens n'ont rien dit. Et après, ils leur ont fait remplir des questionnaires. Questionnaires physiques, etc. Et là, on s'est aperçu que les hommes qui avaient été classés dans le côté bas du tableau, au niveau de la force la plus faible, on va dire, mentaient, avaient tendance à mentir. Okay. Ils se grandissaient, se grossissaient, ils s'attribuaient, ils mentaient un petit peu pour se rassurer, en fait, parce qu'on les avait bousculés dans leur masculinité. C'était assez rigolo. C'est rigolo.
Et ceux de l'autre groupe
eux,
pas de problème.
Nickel,
Ils n'ont pas été bousculés dans leur conviction, leur certitude.
On n'avait pas mis le doute.
Ouais.
Tu vois. Et justement, le prochain son, il va nous parler du doute.
D'accord.
Une bonne partie de notre identité, ce qu'on est, en fait, est une partie est spécifique à nous-mêmes. On est né dans telle famille, avec tel parent, tel frère et sœur, mais beaucoup de choses de notre identité est partagée socialement, c'est-à-dire on est un garçon, une fille, on a tel âge, on fait tel métier. Tout ça, c'est des caractéristiques sociales. Quand on nous menace, on menace notre identité, ça pourrait être, ici c'est l'identité de genre, mais ça pourrait être l'identité nationale ou l'identité d'autres formes d'identité sociale. Quand on la menace, il y a des stratégies pour restaurer cette identité.
Quand on fait douter un homme de sa masculinité, on a vu qu'il peut mentir, mais cela peut aller beaucoup plus loin que ça. Dans l'orchestre masculin, trompettes et percussions peuvent sonner très mal, et cette dissonance peut être lourde de conséquences. Ne pas savoir gérer sa masculinité, refuser sa part féminine, cacher sa fragilité peut mener à faire mal à autrui et à soi-même.
Il y a un fiasco du côté masculin. Les hommes sont statistiquement ceux qui sont le plus violents, ceux qui remplissent le plus les prisons, ceux qui se suicident le plus, ceux qui meurent le plus vite, ceux qui ont le plus d'addictions, etc., etc. Donc si on regarde très statistiquement, le modèle traditionnel de l'homme, il n'est pas très glorieux. Et tout le monde le sait. Et avec tout ce qui est sorti sur les abus sexuels, qui sont quand même à 80% le fait des hommes, on se dit qu'il y a quelque chose d'un peu dangereux chez l'homme. Et c'est pas seulement les femmes qui se disent ça, c'est les hommes aussi. Et c'est pas les hommes abuseurs qui ont honte du comportement masculin. C'est les hommes sensibles qui ont une certaine empathie, qui se disent « c'est quand même incroyable que les hommes soient comme ça. Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que j'ai un côté comme ça? Est-ce que je dois me nettoyer d'un côté de ma masculinité ?» Donc il y a une certaine ambivalence dans la société autour de toutes ces questions.
Les hommes sont davantage dans la contention, ils ont moins d'interlocuteurs, ils ont moins la culture d'exprimer leur malaise, d'exprimer leur ressenti, d'exprimer leur souffrance. Donc c'est quelque chose qu'ils gardent à l'intérieur d'eux et qui donc s'amplifie à l'intérieur d'eux et provoque à ce moment-là des troubles psychiques plus importants. Surtout que comme ils parlent moins, ils vont être plus dans le passage à l'acte. Ça veut dire qu'ils vont boire plus que les femmes, qu'ils vont fumer plus que les femmes, qu'ils vont conduire leur voiture de façon plus dangereuse que les femmes, qu'ils vont être plus facilement dans la bagarre, etc. Donc si vous voulez, tous ces éléments-là, le passage à l'acte, l'absence d'expression, la difficulté à exprimer ce qu'ils ressentent, font qu'au bout du compte, les hommes ont plus de pathologies psychiatriques que les femmes.
Qu'est-ce qui constitue la masculinité? C'est le rapport avec l'ascendance masculine. C'est le rapport avec les pères, c'est le rapport avec les aînés. Et là, on se rend compte qu'on n'est pas du tout égaux, les hommes et les femmes. C'est que le lien des femmes avec leur mère n'a pas été cassé comme le lien des hommes avec leur père. Et ça, c'est aussi quelque chose d'historique, parce qu'avant la révolution industrielle, les garçons grandissaient avec les hommes, ils apprenaient le métier avec leur père et avec les collègues de leur père, ils étaient intégrés dans un monde d'hommes à partir d'un certain moment. Alors que depuis la révolution industrielle, il y a énormément d'hommes qui sont éloignés du milieu familial et qui sont éloignés de leurs fils. Donc les filles gardent la continuité avec leur mère et construisent une identité intérieure beaucoup plus solide, mais les fils sont éloignés de leur père et ils construisent une identité masculine qui est beaucoup plus fragile.
Ok. Alors sur l'explication par rapport au père, je sais pas. Là, je suis pas sûr de partager ça. Après, bon, c'est un point de vue personnel. Par contre. Alors là où ça fait écho par rapport aux recherches que j'ai faites de mon côté, c'est moi j'ai écouté pour préparer l'émission et des interviews de Édouard Louis, oui. Tu vois cet écrivain qui vient de sortir. Enfin, il a beaucoup travaillé autour de sa famille. On rappelle, hein, c'est un transfuge de classe. Il a été son premier bouquin, je sais pas si tu l'as lu, c'est Pour en finir avec Eddie Bellegueule.
Oui, oui, oui.
Et là depuis, presque chacun de ses bouquins est dédié à quelqu'un de sa famille. Sa mère, son père, le dernier qui sort, c'est son frère qui est mort, je crois, accidentellement. Et le lien avec son frère était très distendu. Et en fait, il fait un retour après le décès de son frère en essayant de comprendre de quoi il est mort, quoi, et quelle a été sa vie. Même si leur relation était franchement très... pas de proximité particulièrement ces dernières années. Et ce qu'il explique, c'est que ben là, il y a une certaine forme de masculinité qui a détruit et empêché son frère. C'est-à-dire qu'il y a une forme de masculinité au travers de laquelle son frère s'est construit, parce que c'était peut-être le seul capital social qu'il pouvait avoir pour exister. Mais en fait, ça l'a plus empêché et conduit à une impasse, malheureusement. Et ça, c'est un phénomène qu'on observe vachement, c'est une forme de masculinité dans les classes dominées ou chez les individus dominés, où en gros, c'est peut-être la seule chose qui reste à ces hommes-là pour tenter de se valoriser.
Ouais, ouais. Bah, en fait, quand tout s'effondre, on essaie de se raccrocher à des choses qu'on croit stables, éternelles,
c'est
etc. Quoi. Mmh. Bien, à toutes les mises en scène qu'on peut.
Ouais. Donc c'est une réponse à des mécanismes de domination, mais malheureusement, souvent ça conduit, sinon à des impasses,
beaucoup de
malheurs et à beaucoup de dérives. Quoi.
C'est exactement l'époque qu'on est en train de vivre.
Et oui.
Je trouve.
Ouais,
hein,
ouais.
C'est-à-dire, on bouscule un peu les hommes dans leur masculinité,
ouais,
en disant attention, les gars, là, il y a des choses qui sont pas cool quand même. Ce serait bien de changer. Et du coup, la réaction, elle est.
Elle est violente.
Elle est super violente.
Ouais, c'est le backlash, ouais.
Elle est super violente.
Une pause musicale?
Allez.
mind. I try to laugh about it, cover it all up with lies. I try and laugh about it, hiding the tears in my eyes. 'Cause boys don't cry. Boys don't cry. I will break down at your feet, beg forgiveness, plead with you. But I know that it's too late, and now there's nothing I can do. So I try to laugh about it, cover it all up with lies.
Classique, version acoustique, qui s'imposait quand même, Gisela.
Oh bah, c'est clair.
The Cure, Boys Don't Cry.
Et ouais, toute mon adolescence. Non, c'est cool. Boys Don't Cry, parce qu'en fait, ça s'impose parce qu'on parle masculinité dans SLP. Et on va continuer. On va continuer un truc, parce qu'on est PD, on s'intéresse un peu à des choses un peu légères et futiles, notamment au look.
Au look.
Ah bah ouais, forcément, tu vois. Et le look et les stéréotypes genrés.
Ah.
Ah.
Il y a de quoi dire.
Oh oui. Allez, on écoute.
Beauté intérieure, charme extérieur. Question look, l'ours mal léché, c'est terminé. Les hommes qui préfèrent les hommes ont donné le ton. Du muscle, bronzé ou tatoué, de la barbe soignée, des vêtements étudiés. Le modèle a fini par plaire à tous. Les hipsters et leur pilosité sophistiquée envahissent le pavé. Les concours de la plus longue, de la plus belle barbe fleurissent. Le glabre, c'est ringard. Le poil sauvage mais dompté et pomponné, c'est hype. Le bouc de grand-papa porté par un top modèle, l'image se brouille. Bref, l'image de l'homme change. Mais les stéréotypes de genre évoluent-ils à la vitesse de la pousse du crin humain ?
Pour vérifier si les stéréotypes genrés survivent à ce maelstrom, nous avons proposé à nos spécimens mâles de classer spontanément une série d'images représentant des activités dans trois colonnes. Féminin, neutre, masculin.
La première constatation, c'est quand même qu'il y a une très grande diversité de points de vue et que selon les hommes, on retrouvait les mêmes photos dans une pile, dans une autre pile. Donc ce qui signifie ou ce qui touche quelqu'un en termes de féminin, masculin ou neutre, c'est extrêmement variable. Ensuite, il y avait certaines choses aussi qui apparaissaient en termes de génération. On voyait que par exemple, les jeunes avaient beaucoup plus d'images sur la pile neutre, c'est-à-dire des choses qui représentaient des comportements qu'ils n'associaient pas au féminin ou au masculin. Ça, c'est intéressant parce que je pense qu'effectivement, dans l'évolution de notre société, il y a de plus en plus de comportements qui ont perdu leur attribution de genre.
Changer une roue ?
Alors, changer une roue, ça, c'était une des constantes. Cette image-là est celle qui a été le plus régulièrement posée dans la colonne masculin, une seule fois dans la colonne neutre. et 0 fois dans la colonne féminin. Alors c'est effectivement un stéréotype dont on parle souvent, changer une roue c'est masculin. Mais c'est un stéréotype aussi qui correspond à une certaine réalité. Si on demande aux gens, il y a plus d'hommes qui changent les roues que de femmes. Une autre intéressante, c'est celle-ci. Donc pourquoi est-ce qu'elle ne se retrouve pas du côté féminin ou du côté neutre, mais essentiellement du côté masculin, celle-ci? Eh bien, c'est probablement qu'on a un stéréotype qui ne correspond plus à la réalité, mais que le stéréotype n'a pas encore changé, alors que la réalité a déjà changé. On peut avoir des stéréotypes qui sont utiles et des stéréotypes qui ne le sont pas. Par exemple, quand on voit cette photo qui a aussi voyagé dans les trois piles, on peut se poser certaines questions. Si cette photo se trouve dans la pile masculin, en tant qu'homme, quand je suis père, je me sens assez à l'aise avec le pouponnage. Mais si je mets cette photo dans la pile féminin, parce que j'attribue quand même au féminin le fait de s'occuper des enfants, ou j'attribue aux femmes peut-être le fait de s'occuper des enfants, quand je serai père, je risque d'avoir une certaine difficulté à l'intérieur de moi, certains doutes autour de « je le ferai jamais aussi bien que la mère » ou bien autour de « c'est pas à moi que devrait revenir cette chose » ou « est-ce que je peux être fier de moi de pouponner » ou « est-ce que je peux pas être fier de moi » ou des questions comme ça. Donc là aussi, on voit qu'on a des stéréotypes qui changent moins vite que la réalité mais qui peuvent nous être nuisibles dans certains cas. Les plus grands changements dans l'explosion des rôles, en quelque sorte, c'est récent. C'est vraiment depuis 20-30 ans que ça a énormément changé et qu'il y a tellement de comportements qui ont perdu leur attribut de genre, qui cessent d'être masculin ou féminin. Et les jeunes le vivent, ils le savent et ils cessent d'attribuer ces choses-là aux hommes ou aux femmes. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup de comportements qui ont perdu leur attribution de genre, en fait, nous renvoie à une question, surtout les hommes, une question de, finalement, c'est quoi le masculin? C'est quoi l'homme?
Belle question.
Bah oui, c'est quoi alors? Je suis perdu. Bah non, mais c'est rassurant ce qu'on a entendu. Parce qu'on s'aperçoit qu'au travers de ce genre d'expérience, que les choses évoluent et que finalement, de génération en génération, on voit des différences. C'est plutôt intéressant. Et du coup, moi, ça me rappelle une anecdote personnelle toute récente. J'ai mon plus jeune frère qui vient d'être papa et il s'occupe de son gamin, quoi. Et ma belle-mère, donc la mère de mon demi-frère, elle est complètement estomaquée de voir son fils changer, son petit-fils. « Oh, c'est incroyable comme il s'occupe d'Arthur !» oui, mais en fait, c'est fou quoi qu'elle ait cet étonnement, alors que c'est quelque chose qui est devenu relativement commun.
Ben oui, bien sûr. C'est ce qui ressort aussi de cette expérience, c'est-à-dire que les stéréotypes de genre, en fait, sont pas les mêmes exactement selon la génération.
Effectivement. Ouais. Sans doute aussi en fonction de ton milieu social, de tes expériences.
De ton origine géographique aussi.
Ouais. Et je tiens à dire que je suis bien dans la galère quand je dois changer ma roue de bagnole.
Moi, je crois que je ne l'ai jamais fait.
Donc, voilà.
J'ai jamais
je
le faire.
Je pense que j'aurais... Moi, je l'aurais mis dans le colonne neutre.
Ça peut arriver à tout le monde. Ok, bon, ben, voilà, c'était un petit voyage dans cette émission-là.
Très intéressant.
Et je te propose un dernier son, on va dire un dernier son conclusion rapide.
Ok, on a le temps, hein. Oui. On écoute ça tranquillement.
Un monde masculin en mutation dont les lignes bougent. Au triste cirque qui déplore la féminisation de la société, on pourra rétorquer que la société fait enfin une juste place aux hommes que l'on qualifie de nouveaux. Mais bien sûr, le changement, ce n'est pas toujours facile.
Incontestablement, les hommes montrent plus leurs émotions. Donc c'est des hommes, entre guillemets, féminisés. C'est-à-dire, c'est des hommes qui sont dans l'expression et pas seulement dans l'action. Et tout ça amène pas mal de contradictions, c'est-à-dire effectivement le désarroi masculin aujourd'hui, c'est ne pas pouvoir se référer à une figure unique de la représentation de la virilité.
Vous avez des gens qui vivent le modèle traditionnel, un homme, une femme et des enfants, vous avez des familles recomposées où un partenaire vit avec les enfants de l'autre. Vous avez des couples homosexuels, vous avez une homoparentalité. Il y a une telle foule de possibilités actuellement qu'en fait, ça correspond à une liberté qu'on n'a jamais eue en Occident. Alors, c'est une chance, mais on peut aussi dire que c'est une charge. Parce que quand on est libre, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ?
Partout en Europe ou en Amérique du Nord, les hommes modifient leur propre comportement et leur motivation a entièrement changé. Les hommes veulent équilibrer travail et famille. Le profil des jeunes travailleurs, femmes ou hommes, est exactement le même. Il n'y a aucune différence. Tous veulent avoir un bon travail et être des parents impliqués. Si jamais nous avons été de Mars et de Vénus, ce que nous n'avons jamais été probablement, aujourd'hui nous sommes de Terre, nous avons tous les mêmes idées.
Le sociologue Michael Kimmel est une star mondiale des études genre. Auteur et chercheur prolifique, il est l'un des précurseurs des travaux sur la masculinité. Il a fondé un centre dédié à sa matière de prédilection à l'université de Stony Brook à New York.
La nature nous a donné une sorte de matière première, être homme ou femme. Mais ça ne veut rien dire jusqu'à ce que ça prenne forme et s'exprime à travers la culture. Ainsi, vous devez élever les garçons à reconnaître que l'inégalité, c'est faux. Les filles l'ont compris. Le girl power reconnaît que l'inégalité, c'est injuste. Les garçons ne l'ont pas encore tout à fait compris. Voici une illustration de ce que je veux dire. Si vous êtes un coureur et que vous courez avec le vent dans le dos qui vous pousse, vous pensez que vous êtes un super coureur. Si vous vous retournez et que vous courez avec le vent contraire, vous réalisez que vous avez été aidé durant toute votre course précédente. Les garçons courent, le vent dans le dos, il faut qu'ils courent contre le vent. Les filles ont toujours couru avec le vent contraire et savent que c'est injuste d'avoir à courir toujours face au vent. Elles ont besoin que les garçons y mettent du leur et qu'ils réalisent que c'est injuste.
C'est...
le privilège masculin.
Eh ouais, c'est ça. Faut qu'on apprenne à courir avec... Non, il ne faut pas qu'on apprenne à courir avec le vent de face, il faut que les filles arrivent à courir, qu'on leur permette de courir avec le vent dans le dos.
Ouais, il faut qu'on soit en capacité de courir, quel que soit le sens du vent en fait. Alors ça c'est intéressant, après bon, c'est toujours pareil, quand, exprimer les choses de façon très, très binaire comme ça a été fait, à un moment ça a quelque chose de schématique. Moi je peux pas m'empêcher, mais je pense que tu seras d'accord avec moi, quand il parle de garçon et de fille, forcément c'est plus complexe que ça, parce que par exemple quand tu fais partie d'une minorité, on est bien placé pour le savoir, en tant qu'homo, tu comprends quand tu réalises que tu es différent de ce qu'attend la société de toi, que tu ne corresponds pas aux normes, tu cours avec le vent en pleine gueule aussi. Je pense que on est peut-être, nous, par notre caractéristique d'orientation sexuelle, plus conscient de certains déterminismes, de certaines difficultés que ne le sont des mecs hétéros, blancs, qui effectivement bénéficient d'un privilège dont ils n'ont même pas conscience. Et c'est ça qui est en fait à déconstruire, si on peut utiliser un terme beaucoup employé en ce moment.
Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que dans les luttes pour l'égalité des droits des homos, il y a toujours des ponts avec le féminisme, avec les luttes féministes, etc.
Toutes les minorités, à un moment, effectivement, peuvent se retrouver dans des luttes communes par rapport à tout ça.
Bien sûr, parce que c'est la même lutte, en fait.
C'est ça. Au départ. L'émancipation, ouais. On se retrouve
La semaine prochaine.
Allez, ça marche. Salut, Ghislain.
Ciao.